Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public, c'est bon de vous retrouver au Théâtre de l'Alliance Française pour un masque et la plume consacré à l'actualité toujours estivale du cinéma avec Ava Kahn de la revue French Mania, Eric Neuhoff du Figaro, Pierre Murat de Télérama et Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et d'une heure en série. On approche du retour de notre émission du samedi soir. On parle ce soir de Bac Nord, Passion Simple, Drive My Car, Free Guy, Les Fantasmes, ça c'était à la demande de Xavier, et Louloute dans le courrier de la semaine. Nos auditeurs ne sont pas tendres pour le film Palmé d'Or. Titane de Julia Ducournau, Damien Fabre, d'ailleurs, nous envoie ce résumé lapidaire du film. Une psychopathe enceinte d'une voiture se fait passer pour le fils disparu d'un pompier désaxé. Se pose alors la question importante, gynéco ou mécano. Vincent...
C'est très intéressant. Ça donne envie. Merci beaucoup.
Le problème, c'est le résultat.
Vincent, lui, ne comprend pas pourquoi Xavier trouvait il y a 6 mois le film irréversible, abominable et fasciste et qu'il reste très indulgent avec Titan. Ce film a les mêmes défauts, la même violence gratuite, la même réalisation tape à l'œil. Titan est d'une laideur et d'une vacuité qui dépassent tout ce que j'ai vu. Sylvain de Carnon dans l'Hérault pose cette question. Faire des scènes insoutenables, soit, mais sans histoire, sans humour et sans message, que reste-t-il de ce film ? Pour Bernard Boulade, c'est une œuvre laide et racoleuse avec un lindon pathétique de boursouflure. Ce film, d'ailleurs, pénible, aurait dû s'appeler Plomb. Et pour Daniel Brévin de Nantes, Titane et Annette sont deux superbes paquets cadeaux, mais avec rien dedans. C'est une partie du courrier. Je n'ai reçu aucun mail en faveur de la Palme d'Or de Titane. Je vous le dis quand même, que vous le sachiez, vous qu'en avez dit pour certains du bien à l'émission. Justement, Annette de Léos Carax fait davantage d'heureux. Flavien de Paris a éprouvé un très grand plaisir de cinéma. Musique des Sparks grandiose, interprétation épatante d'Adam Driver et image superbe. Salut les pionniers du masque, nous écrit Jérôme Verdier de Saumur. J'ai été envoûté par Annette à tel point que j'y suis retourné 3 jours plus tard pour revivre et comprendre ce sortilège. Annette est un conte de fées à l'ancienne, effrayant, onirique, démesuré. J'ai vraiment adoré. Je voulais, nous écrit mardi Rose Caloustian, que mon retour dans une salle de cinéma soit une explosion d'images et de musique dont je me souviendrai à jamais. Le 28 juillet 2021, une petite fille qui pose son regard triste sur la folie des adultes a réalisé mon rêve. Elle s'appelle Annette. Et pour Caroline Rowe de Le Haillan en Gironde, c'est un geste de cinéma sublime qui condense tout ce qui fait mon amour fou pour le cinéma. Alors, il y a des récalcitrants quand même, je le dis pour Ava Kahn, hein, Pierre Cuzor, pour qui Annette était un gloubi-goulba, ou encore Monsieur Sorinelli, pour qui c'est un épisode de Chucky la poupée, du diable versus les demoiselles de Rochefort pour Troisième Âge. C'est complètement raté et terriblement prétentieux, donc nous dit Monsieur Sorinelli. Lily Mac de Rebeil se sent victime d'une expérience cinématographique à la limite du multitraumatisme. Je me demande si je n'aurais pas préféré subir un concert de Céline Dion plutôt que de supporter les Sparks sans boule-cuillès pendant cette interminable comédie musicale de 2h20. Conclusion de Jérôme Duvivier de Lyon. Annette est une grande coquille vide, une longue bobine vaine, beau et creux à la fois, comme aurait pu dire Jacques Brel. Et encore, je vous épargne ce soir le courrier que m'a valu ce qu'on a dit sur le film Benedetta de Verhoeven.
Ils aiment ça ?
Ah non, personne n'aime ça. En revanche, je vous épargne pour la fois prochaine le courrier concernant Kaamelott. Et là, nos auditeurs sont fous de rage parce qu'ils ont adoré, contrairement à vous. Voilà. Pour Titane, tu es content, Pierrot ?
C'est pas mal, ça commence à se rapprocher de ce que je pense, oui.
Quelle modestie !
On commence avec Bac Nord de Cédric Jiménez, le réalisateur de La French, avec Gilles Lelouch, François Civil, Karim Leclou, Adèle Exarchopoulos, Kenza Fortas. Un film inspiré du scandale de 2012, dont d'ailleurs l'instruction judiciaire, je l'ai appris, est toujours en cours, hein, quand 18 policiers de la BAC Nord de Marseille ont été déférés en correctionnel pour trafic de stupéfiants et rackets en bande organisée. C'est l'époque, vous vous souvenez, où Manuel Valls parlait de nettoyer la police. Les flics du film, ce sont Greg, donc Gilles Lelouch, crâne rasé et diamant à l'oreille, on croirait Eric Neuhoff. Yass, c'est Karim Leclou, dont la femme, également policière, est jouée par Adèle Exarchopoulos. J'ai eu du mal à imaginer Exarchopoulos et policière et enceinte. Et enfin Antoine, qui est joué par François Civil, et à qui leur supérieur demande évidemment toujours plus de résultats dans ces quartiers nord de Marseille qui détiennent le taux de criminalité le plus élevé de France. Et pour obtenir la chute d'un réseau qui prépare une grosse livraison de stupéfiants, ils finissent par franchir la ligne jaune avant de se lancer dans une longue scène d'anthologie, digne, il faut dire, d'un polar ou d'un western américain, à l'assaut de la cité de la Castellane. Alors bon, on va pas revenir sur le débat qui est en train de monter. Est-ce que Jiménez fait finalement l'apologie de la police? Mais en tout cas, ça, voilà, ça court sur les réseaux sociaux, Eric.
Bah, en tout cas, on se dit que Marseille, c'est loin de Pagnol, hein, maintenant. C'est...
Ah, tu le découvres avec ce film. Hein.
Tu tires ou tu pointes, c'est pas la pétanque, c'est une Kalachnikov ou un fusil à pompe, maintenant. Là, c'est un très bon film d'action. Moi, je me fous complètement que Jiménez fasse voter Le Pen ou pas.
Non, c'est Jiménez, hein, c'est des Français.
Jiménez, bon, bah, très bien. Visiblement, il parle de ce qu'il connaît, de sa ville. C'était déjà un peu le cas dans La French, qui avait été complètement décriée et qui n'était pas si mal que ça. Et là, c'est un film de guerre. On voit qu'il y a des zones occupées. C'est la scène de l'assaut est.
Mais la scène de l'assaut est une scène de guerre, hein.
Ah, mais c'est hallucinant, là. Il y a une pluie de machines à laver qui tombe de tous les étages. C'est un truc, on est vraiment scotché à son fauteuil. Et il y a plus de films de flics maintenant. Ça a été transformé en série où ça passe à la télévision. Et là, on a un gars qui sait faire ça, qui sait parler de son époque, qui sait parler d'un métier, parce qu'on voit ces gars-là travailler. On les voit dans leur vie quotidienne, on les voit harcelés par la hiérarchie qui les pousse à faire du chiffre, on les voit coincés par les dealers qui le rançonnent pour pouvoir payer les indics. On apprend un tas de trucs, et les comédiens sont quand même très très bons. Lelouch, on l'a jamais vu aussi excellent. François Civil, avec son espèce de petit chignon sur le crâne, est parfait, en flic déchiré. Karim Leclou, qui attend un enfant, enfin, sa femme attend un enfant, et qui lui est une espèce de gros nounours qui est dépassé par les événements.
La petite indique...
Kenza Forta, c'est formidable.
Hein.
Absolument formidable. Ouais, c'était la révélation de Scheherazade, un film sur Marseille.
On voit le déchirement permanent qu'ont à vivre ces flics, là. C'est entre les indics, leurs supérieurs, les criminels, et qui sont... avec des moyens dérisoires, à la fois otages, victimes, de temps en temps bourreaux, et qui ne savent plus ce qui se passe, avec tout le fric qui circule, avec les ordres contradictoires. Et le film est quand même très très fort. Je mettrai un petit accent mineur sur la fin. On n'était peut-être pas obligé d'entendre House of the Rising Sun, la version américaine du pénitencier de Johnny Hallyday, on avait compris.
C'était Eric Neuhoff, découvre les quartiers nord de Marseille. Ava.
Bah, je rejoins Eric, le point fort du film c'est quand même le casting, c'est quand même le jeu des comédiens, il faut reconnaître ce talent-là à Jiménez, hein. C'est un excellent directeur d'acteurs, les trois têtes d'affiche sont absolument fabuleuses, c'est vrai qu'ils sont en dehors en plus, hors de leur zone de confort, et voilà, ils sont tout à fait parfaits dans le rôle de ces flics bas de front qui se la jouent à la fois cow-boy et bandit, mais voilà, qui ne sont finalement, c'est ce que tu disais Eric, que des rouages, que les rouages d'une machine infernale en fait, qui broie de l'individu, c'est un petit peu la thèse du réalisateur. Je trouve Exarchopoulos formidable et Fortas aussi. Alors voilà, ça c'est les qualités du film, mais en dehors de ça, je trouve que c'est un film extrêmement bourrin, qui cultive le spectaculaire, qui est dans
Qu'est-ce
une
que
forme...
Qu'est-ce que tu veux dire par bourrin?
Ouais, bourrin à l'image des personnages, en fait. Tout est trop démonstratif. C'est une démonstration de force permanente, et ce, dès la séquence d'ouverture où, voilà...
Choque ou ça te déplaît?
Ça me déplaît surtout que voilà, je trouve qu'il se met en fait trop au diapason de ces personnages qui ne sont que muscles, qui n'ont pas de matière grise. Enfin, de toute façon, il n'y a rien à agiter à ce niveau-là. Et je trouve que le discours du film est terriblement maladroit. Alors, j'entends bien que ce qui prend pour cible, c'est la hiérarchie, ce sont les bureaucrates, en fait, ce sont ces corrompus-ci, et que les flics de terrain, ils les épargnent et qu'ils leur donnent tout à fait une vie de famille, ou en tout cas une vie à laquelle on se connecte. Mais voilà, moi, je suis dérangée quand même par ce discours qui qui, oui, effectivement, glorifie la police, ou en tout cas, ces types-ci.
Je trouve que ça glorifie
qui,
la police.
Ouais, il crée une empathie. Ouais, oui, tout à fait, parce que de toute façon, on ne voit que, on a l'impression que ce sont les seuls habitants de Marseille, bah, en dehors d'eux et les dealers. Il n'existe absolument rien d'autre. Donc, je trouve qu'ils prennent trop de place. Et je suis d'accord sur la fin, on n'avait pas besoin, en plus, de violon. J'ai trouvé ça, en plus, très too much. Enfin, voilà.
Alors, bourrin ou pas bourrin, Pierre?
Ah, pas bourrin du tout. Enfin, non, je pense pas. Moi, je trouve que c'est un film absolument formidable. Enfin, c'est rare dans le cinéma français de voir à ce point un réalisateur qui m'avait pas vraiment convaincu dans La French, qui était pas mal, mais vraiment pas plus. Et là, qui prend de l'ampleur, du souffle dans même les personnages, parce que le trio de personnages principaux est formidable. En effet, les acteurs, par exemple François Civil, qu'on voyait beaucoup avant le confinement, il n'y avait pas un film sans François Civil. Et là, je le trouvais toujours un peu agréable à regarder, mais pas très très fort. Et là, il est vraiment très bien. Il a su donner à tous les personnages, tous les seconds rôles. Les deux femmes, les deux actrices sont absolument formidables. Mais la mise en scène aussi, enfin, ça serait signé Don Siegel, mais tout le monde hurlerait de joie. C'est magnifique de faire un film comme ça en France. On ne sait pas très bien le faire. Pour une fois, on a trouvé un réalisateur qui, après La French, le fait magnifiquement. Alors moi, après les polémiques qui consistent à dire que si c'est un film de droite parce qu'il met l'accent sur les flics, on ne s'est pas posé la question dans Les Misérables, qui est un film beaucoup moins bon cinématographiquement parlant et qui a eu
le César, le prix de Cannes.
Et on ne s'est pas posé de savoir s'ils étaient justes, pas justes. Tout le monde trouvait ça tout à fait normal qu'on prenne le parti que le réalisateur, l'Adjli, tenait. Là, il ne milite pas pour. Il montre ce qui se passe et il le montre avec un sens du spectaculaire absolument épatant.
Xavier.
Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec Suspense.
Bah oui, avec Arakaen.
Bah non, je suis d'accord avec Pierre. Et malheureusement, je suis pas tout à fait d'accord avec Arakaen. Je partage évidemment son appréciation ultra positive de ce trio d'acteurs qui sont hors de leur zone de confort. Elle a très justement parlé de cela. Mais qui sont hors de leur famille, en plus, hein. Gilles Lellouche avec Karim Leclou, qu'on a vu plutôt dans le cinéma d'auteur, et François Civil, qu'on a vu longtemps dans la comédie française, forment un trio extrêmement crédible. Il est à côté des flics, mais ça lui permet justement d'apporter de la nuance. C'est quand même déjà des petites racailles, les flics. Ils volent des cigarettes de contrebande à un petit vendeur de rue. Ils arnaquent un tout petit peu comme ça. Ils payent pas leurs additions au café. Ils considèrent que c'est normal. Donc déjà, ils ont un peu franchi le pas.
J'ai remarqué.
Moi non plus. Enfin, et ce que je trouve intéressant, ils ne les angélisent pas d'ailleurs. Hein. Ils montrent des gens de terrain qui font ce qu'ils peuvent pour se démerder avec effectivement des situations qui sont extrêmement compliquées, nauséeuses, qui dérapent à la vitesse du vent. Et je trouve que la manière dont Jiménez, dans sa mise en scène, fait monter comme à l'attention pour la faire exploser à l'écran. Il y a la scène de poursuite du début qui se termine effectivement par une voiture qui recule sur elle-même et qui percute un mur qui a été créé. Ce sont quand même aussi des réalités. Je ne pense pas un instant que le film puisse faire voter pour le Front National. De toute façon, il faudrait être très con de penser qu'un film comme Bac Nord va faire se précipiter les gens voter pour ce parti-là. Je pense que les opinions sont faites depuis longtemps et qu'un film n'a malheureusement aucun effet ni positif ni négatif. Mais le cinéma de genre en France, qui est toujours traité avec « je veux faire un film de genre et en même temps je vais prendre un petit peu de distance et en même temps je vais être dans la quintessence du genre », là il y est pleinement dans cette virilité un peu poisseuse dont sortent quand même les personnages féminins. Je trouve qu'elles existent et elles ont vraiment une identité, elles ont identité. Et je trouve qu'être de ce côté-là, effectivement, on peut lui reprocher de ne pas être de l'autre côté, de ne pas montrer le vis-à-vis, mais ça nous permet quand même de mesurer le quotidien, et le quotidien pas toujours très rose et pas toujours très angélique de ces flics de terrain et de quartier. Je trouve que c'est quand même un grand film de genre.
Sans compter que c'est un film qu'on n'oublie pas, tu vois, parce qu'il devait sortir il y a quand même mois.
Oui,
oui. Moi, je l'ai vu il y a 6 mois à peu près. La scène de l'assaut, la raconter.
C'est inoubliable. En termes de cinéma et de montage, c'est une grande leçon. On en aura d'autres et dans d'autres registres au cours de l'émission.
Bac Nord de Cédric Jiménez. Passion simple, le 4e film de Daniel Arbid avec Laetitia Doche et Sergueï Polounine, d'après le roman autobiographique d'Annie Arnaud, paru en 1992, qui racontait la passion simple et folle qu'elle a connue pour un homme marié, originaire d'un pays de l'Est. Et c'est Laetitia Doche qui endosse le rôle de cette femme, Hélène, professeure de lettres, dont la vie quotidienne est consacrée à attendre que son amant lui téléphone, lui dise qu'il va venir la voir. Lui, c'est Alexandre, il est incarné par le danseur russe Sergueï Polounine, et il est son exact contraire, puisque Il est comme Pierrot, il aime Poutine et les grosses cylindrées, mais voilà.
Et les costumes Dior.
Et les costumes Dior. Mais voilà, Hélène est dingue de lui, elle se soumet entièrement à lui, ce qui d'ailleurs, je ne l'ai pas encore vu, mais devrait provoquer sans doute, après MeToo, des polémiques, dont d'ailleurs Daniel Arbit se moque, puisqu'elle dit « je ne me pose pas la question du féminisme, je suis une femme indépendante ». Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a des plans, même beaucoup de plans, où Laetitia Doche, qui a les cheveux assez longs, ressemble incroyablement à Annie Ernaux. Xavier.
Je ne sais pas si elle se pose la question du féminisme. Je voudrais déjà qu'elle se pose la question du cinéma
oui.
Et qu'elle y réponde. Je trouve ça concernant de banalité filmique, mais c'est... Il n'y a aucune intensité à l'écran. Toutes les intensités promises, c'est-à-dire la passion...
Il y a quand même l'intensité de Laetitia Doche qui...
Oui, mais on va y venir. Je trouve qu'elle n'est même pas bien filmée. De toute façon, on nous annonce une passion simple. C'est une passion simpliste. Hein. C'est vraiment une passion pour film érotique du samedi soir sur M6.
Non, je suis désolé.
Il a raison.
La représentation de l'amant... Alors déjà, la couleur de l'image et du film, cette espèce de sépia 70, qui nous ramène encore au film érotique des années 80 sur M6. Bon... Très à plat, pas de relief. Et alors, l'érotisme de la chose, je l'ai cherché en vain, je l'ai attendu.
Mais le livre d'Annie Ernaux, vous l'avez lu, sans doute les uns, n'était pas érotique.
Mais non.
Il racontait une passion.
Mais je suis désolé, mais enfin, ça raconte une passion. On a quand même une scène typique. Alors vraiment, c'est pas le plombier, c'est le bel amant russe. Il pousse la porte, il lui met directement la main au panier, elle se pâme. Alors là, elle est pas moison, Laetitia Doche. Il lui a même pas effleuré le sein, qu'elle est déjà en train de grimper au rideau.
C'est dans cet état-ci hein, que vous mettre le désir et la passion.
Mais à l'écran, c'est ridicule. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça ne fonctionne pas. Elle jouit alors même qu'il n'a même pas encore touché. Moi, je ne crois à rien. Je ne crois pas à cette histoire. Elle ne s'incarne pas. Elle n'a pas d'intensité. Elle n'a pas de relief. Une fois encore, je trouve ça d'une banalité. Et puis, il y a une espèce de saupoudrage de morale dans ce film qui me gêne. C'est-à-dire, plus elle aime son amant, plus elle délaisse son fils. C'est quand même clairement montré. Elle manque de l'écraser.
C'est pas de la morale, ça.
Si. On peut être une très bonne mère et s'envoyer en l'air avec des Russes. Je suis désolé. Je vois pas où est la contradiction. Pardon.
Non, moi j'ai trouvé le film extrêmement sensible, extrêmement intéressant, extrêmement intelligent, et notamment dans sa façon de représenter les scènes de sexe qui sont... C'est une manière presque documentaire en réalité, elle recherche pas l'esthétisation, on est proche des peaux, on est proche des visages, on est à la recherche des sensations, et moi je trouve que Daniel Arbid arrive très très bien à transmettre cela. Ces scènes d'amour en réalité qu'on voit, elles cimentent hein, la vie, la pauvre vie et effectivement de l'héroïne que la passion a fait complètement éclater en morceaux et en dehors de ses corps à corps, et ben ce que Daniel Arbid filme, eh bien c'est sa vie à Hélène sans relief, une vie morne effectivement, composée de temps mort. Et ça, je trouve ça très intéressant qu'on nous raconte aussi dans quel état nous met la passion, parce qu'en fait cette passion elle est à la fois très libératrice mais aussi très astreignante, et
très
là on
carcérale
montre...
même on peut
oui,
dire
oui voilà exactement, et en fait ce n'est pas la soumission au désir de ce personnage russe, c'est la soumission à son propre désir, j'ai l'impression que nous raconte le film. C'est comment on est esclave de son propre
c'est
désir,
ce que racontait
comment,
exactement le
comment
livre,
on lui
hein.
obéit, oui, mais alors complètement jusqu'à quitte à s'oublier. Et je trouve que là, il y a une vérité à laquelle elle touche, Daniel Arbid, extraordinaire. Parlons de Laetitia Doche quand même 2 minutes, qui est absolument éblouissante, qui amène de la chair et de la sensualité à ce film. C'est certain. La seule réserve que j'ai, c'est finalement son amant, son partenaire de chambre à coucher, son partenaire de jeu, que je trouve un petit peu en dessous en termes
de. Autre cliché parmi tant de clichés dans le film.
Pas du tout, c'est très complexe.
Le problème, c'est que c'est très difficile, me semble, à la décharge de la réalisatrice, c'est très difficile, me semble-t-il, à l'écran, de peindre la passion sensuelle. Parce que les mots, quand une romancière...
C'est plutôt la passion maladive que la passion
bien
sensuelle.
Sûr. Oui,
et maladive,
je suis d'accord, maladive, absolument.
Apprécier l'érotisme,
mais
c'est
mots,
pas ça.
Les mots permettent de créer soi-même des images. Là, on a des images, donc ou bien on entre dans le jeu ou pas. Moi, personnellement, comme je ne suis pas du tout amoureux de Laetitia Doche, comme je ne suis pas du tout amoureux de Sergueï Polonine...
Comme je n'aime pas le cinéma...
Non, j'adore le cinéma,
mais
justement.
Plus.
Mais non, au bout de la 3e fois qu'on les voit ensemble, je m'en fous. Mais alors... Totalement.
Mais c'est la répétition de la passion.
Parce que je ne participe pas à cette passion dévastatrice... pour la femme. Je la regarde, je ne la comprends pas. Donc je suis complètement à l'extérieur. Et à la limite, je ne vois plus qu'une bourgeoise qui, en effet, est là pour dire « Ah mon Dieu, moi qui suis si intelligente et si intello, comment ça se fait que je peux tomber amoureuse d'un mec qui aime Poutine et là ?»« Ah mon Dieu, bah oui, cocotte, ça arrive que tu tombes amoureuse physiquement. » Voilà.
Oh là
donc
là
c'est
là,
totalement raté.
Eric. Eh ben, je l'avais vu il y a longtemps avant le confinement et je croyais que j'avais tout oublié et j'y suis retourné et je me suis aperçu qu'il n'y avait rien à se rappeler dans ce film. C'est vraiment un film plat comme une limande, une sorte de poisson mort et c'est dommage parce que le précédent film d'Arbid qui s'appelait Peur de rien était pas mal du tout. Mais là, c'est quand même un truc complètement vide, creux, sans... ça devrait être brûlant, montrer le désir, mais non, mais l'impatience.
Mais c'est pas les déchirateurs lèvres.
Mais un peu quand même.
Mais non,
c'était aussi presque.
Cette prof de lettres là qui attend son amant russe. Alors, comme il est russe, il boit de la vodka, il est russe. Oh. Et j'ai pas compris pourquoi il s'appelait Alexandre. Peut-être parce que, comme on le voit tout le temps nu, c'est Alexandre le Gland. Mais
elle vient de loin,
ouais, elle vient de loin. J'aurais aimé qu'il y ait un peu d'humour dans ce truc-là, parce que et lui, il est comme les scouts, toujours prêt, Alexandre. Alors, ils ne font que ça, coucher ensemble, se monter dessus. Il faut dire quand ils parlent, je comprends parce que elle lui dit. Alors ça va, oui. Alors quoi, rien. Ben on comprend qu'il passe à l'acte. Et c'est vraiment un film. Ça, c'est pas passion simple. C'est comme c'est une banale histoire de faux derrière. Ça aurait dû s'appeler pulsion simplette.
Passion simple. Ava. Daniel Le Arbid. C'est son quatrième film. Des réactions ici.
Et dernier.
Sur ce film, non. On en a déjà parlé, évidemment, et puisqu'il a reçu le prix du scénario à Cannes. Et on en avait dit le plus grand bien le 18 juillet dernier, lors du Masque en direct consacré au palmarès du festival, n'est-ce pas Xavier, n'est-ce pas Ava? C'est Drive My Car du japonais Ryusuke Hamaguchi avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada, d'après une nouvelle de Murakami, un film de 3 heures, où, je le rappelle, un acteur et metteur en scène qui vient de perdre sa femme se rend à Hiroshima pour monter dans un festival Oncle Vania de Tchekhov. Une jeune femme est chargée de le conduire au volant de sa voiture à lui, une vieille Saab rouge écarlate. Et ce qui va se dire entre eux dans cette ville martyre est d'une délicatesse bouleversante, à tel point que je l'ai revu depuis première vision au moment du festival. C'est vrai que on n'a même pas envie de raconter ce qu'ils se disent et ce qu'ils se révèlent, alors que le film dure 3 heures quand même. Eric.
Je l'ai revu celui-là aussi.
Toi, tu l'as revu?
Ouais, et je suis d'accord avec toi. C'est un film d'une richesse, d'une délicatesse, d'une légèreté. C'est quelque chose d'aérien, de profond. C'est un vrai miracle. Là, on se dit que le cinéma, quand c'est fait par des artistes, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et qui ne ressemble pas aux autres arts, qui peut égaler la littérature. Et là, en adaptant une nouvelle de Murakami, ce type arrive à nous raconter toute la vie, tout l'intérieur, tous les sentiments de ce dramaturge qui a perdu sa femme.
Et tout le passé aussi.
Et tout le passé, oui. Et la rencontre avec cette fille qui conduit sa voiture, là, une Saab Turbo.
Oui, la voiture de lui. Hein.
Sa voiture à lui, oui, puisqu'il n'a pas le droit de la conduire pour X raisons. Et tous ces silences, tous ces non-dits sont vraiment d'une richesse. En plus, les répétitions, donc le Vania qu'il dirige avec des acteurs qui ne parlent pas la même langue, plus une muette qui joue en langage des signes. Et la fin est prodigieuse, la fin donc le Vania avec tout ce qu'elle dit, le fameux « nous nous reposerons » qui ponctue l'action de ce qui arrive aux deux héros. Et c'est vraiment un film d'une magie incroyable, inspiré constamment. C'est un film où on peut même croire qu'aller dans une déchetterie et voir les ordures s'envoler, c'est comme si c'était de la neige qui tombait. Retourner dans l'endroit où était une maison d'enfance qui a été emportée par un glissement de terrain, la scène est bouleversante. Et tout ça est suggéré, c'est vraiment le contraire de tous les films à tam-tam qu'on voit. C'est vraiment une œuvre d'art.
C'est vraiment le film qui aurait dû avoir la Palme d'Or.
Oui. Et puis surtout, les 3 heures passent vraiment comme un souffle.
Bon,
la fin est prodigieuse, d'une intelligence et d'un art de cinéma inouï.
Pierre.
Oui, j'allais le dire, c'était une palme
vraiment idéale.
Idéale, parce que c'est vraiment magnifique.
Il y a une voiture aussi.
Ce qui me plaît aussi, c'est que la façon dont c'est construit. Alors, je sais qu'il a eu le prix du scénario, mais enfin, indépendamment de ça, c'est que pendant...
Mais l'image 40... est magnifique.
Oui, oui, non, mais scénario pendant 40 bien, minutes, mais... il accumule les faits. C'est-à-dire qu'il y a la première de Godot, enfin, d'un attentant Godot, un adultère, un accident possible. Enfin, il y a tout ça qui dure 40 minutes. Et le générique, très curieusement, vient au bout de ces 40 minutes-là. Donc, comme si les faits, tout ce qui était les faits, était accumulé là, en un temps relativement court, 40 minutes. Et tout le reste, ça va être cette espèce de naissance, de recherche et de découverte de soi, car c'est un film, en effet, spiritualiste au noble sens du terme. C'est-à-dire que la vérité des autres va se faire peu à peu au cours d'un temps qui s'étire, mais qui ne paraît jamais long ni lent. Et c'est absolument formidable, puisque les trois personnages, c'est-à-dire le metteur en scène, celle qui conduit sa voiture, mais aussi l'acteur qui a un rôle très important, même si secondaire, et qui lui aussi va trouver sa vérité à travers le texte de Tchekhov. Et c'est surtout ça que je voulais dire pour finir aussi, c'est que c'est quand même un hommage magnifique à Tchekhov et à...
Oh, comme j'aime comme tu dis ça.
Tchekhov et à Dyadia Vania et Oncle Vania. Et Oncle Vania, qui est une pièce absolument sublime, on voit.
Mais toutes les pièces de...
Oui, bien sûr. Mais celle-là, particulièrement là, on le voit, qui a un reflet aujourd'hui de toutes nos préoccupations, d'une certaine façon. On y trouve, dans ce texte, notamment la fin que tu as dit, Eric, avec les signes, comme ça. J'ai jamais vu ça jusqu'à présent. C'est d'une émotion absolument formidable et un hommage à Tchekhov.
On devrait faire l'émission en langage de signes.
Mais dans un temps, pas du temps, ouais. Que je trouve plus profondément japonais que russe.
Oui, c'est vrai. Ouais. Enfin, ça se rejoint grâce
Ava et Xavier, vous serez un peu plus bref puisque vous avez déjà dit votre enthousiasme au masque il y a un mois.
Mais on peut clamer encore notre amour absolument. Haut et fort de ce film.
Il faut que les gens y aillent.
Mais oui, voilà, allez-y, vraiment foncez parce que c'est un film dont on ressort bouleversé, grandi. Mais vraiment, c'est un film magnifique. La définition du film parfait existe, je pense que c'est Drive My Car. Moi, ce qui m'a d'abord plu, c'est le tissu humain, hein, c'est les personnages qui sont à la fois très volubile et très secret, en même temps en mouvement et complètement pétrifié.
Parce qu'il y a beaucoup de silence aussi, hein.
Absolument.
Il n'y a pas que de la parole.
Mais oui, il n'y a pas que ça, mais ils se connectent quand même dans l'habitacle de cette vieille sable, en tout cas ces deux personnages, l'un à l'autre, et ils finissent par se livrer l'un à l'autre, et ça, je trouve ça très très beau, et c'est ce que dit le titre du film, quoi, en réalité, Drive My Car, conduis-moi ma voiture, mets-toi à ma place, apprends à parler ma langue, et donc c'est un film absolument magnifique sur ça aussi, sur le lien, sur l'altérité, sur l'amour, sur ce qu'on peut partager avec un étranger ou avec une étrangère, parce que ce sont deux personnages qui ne se connaissent pas, dont la route ne devait pas se croiser, donc ça, j'y ai été très sensible et la mise en scène est absolument virtuose, quoi. C'est un geste d'une fluidité remarquable, ces scènes de voiture, ce circuit extérieur, ça évoque parfois le cinéma de Kiarostami, il y a plein d'audace, tu en parlais, ce générique qui arrive au bout de 40-45 minutes, donc voilà, faut y aller, c'est un film bouleversant et magnifique.
Xavier,
oh, là tout est dit, je n'ai rien à rajouter, sauf qu'évidemment je vais renchérir juste sur ce que vient de dire Ava, sur la mise en scène, c'est-à-dire que ce prix du scénario, il est totalement mérité, mais je ne voudrais pas qu'il efface aussi
absolument.
La beauté de la réalisation et de la mise en scène, parce que on parlait du montage de Bachner tout à l'heure, ben voilà un autre exemple de montage absolument sublime, qui travaille la passation justement entre deux espaces, le huis clos de la voiture, les espaces de rue, et en même temps celui du théâtre, et qui a une logique, mais implacable. Je crois qu'on ne pourrait pas échanger deux plans l'un avec l'autre, tellement il y a une véritable mais logique absolue, comme ça qu'on ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas manipuler. Et donc, du coup, ça donne ce mouvement dont tu parlais, extrêmement fluide, qui emporte le spectateur. Donc, les trois heures, on s'en fout. On est pris dans ce mouvement-là, qui ne nous abandonne absolument jamais. C'est un film qui ne vous prend jamais de haut. Et au moment où on se dit, oh là, on va un peu tomber dans le mélo, le personnage principal, et ben non, on lui découvre une petite perversité qui n'est pas désagréable.
Prenez trois heures de votre vie et allez voir Drive My Car d'Amaguchi. On va passer à un cinéma un peu différent avec Les Fantasmes, le nouveau film des frères Stéphane et David Fuenquinos, avec Carole Bouquet, Karine Viard, Monica Bellucci, Jean-Paul Rouve, Denis Podalydès, Ramzi Bedia, Joséphine Japy, qu'on verra bientôt dans Génie Grandet, Nicolas Bedos, Céline Salette, j'en oublie, c'est mieux que le générique de Kaamelott. Hein. Le concept est différent, c'est celui du film à sketch. Assez simple, hein, six couples, six fantasmes sexuels qui vont de l'abstinence à l'exhibitionnisme. avec notamment Paul Delignes qui se déguise en flic de Bac Nord pour pimenter sa vie de couple, ou Carole Bouquet et Monica Bellucci qui s'envoient en l'air dans les cimetières, tout ça pendant quand même 1h40. Est-ce que ce film a réveillé votre libido? On va commencer avec Ava.
Malheureusement non. Enfin, en tout cas, c'est un rendez-vous manqué, ouais, avec ce film-ci. Et pourtant, j'avais aimé leur précédent film, Jalouse, qui était une comédie assez méchante avec les battants de Karine Viard qu'on retrouve, comme vous disiez.
Tout le monde a ses défauts.
Au casting, bah oui, monstre de ce film. Alors bon, ma réserve sur le film, c'est que déjà, on est à une époque, en fait, où on parle quand même de sexualité, de sexe, sans tabou, assez librement. On ose parler de ces fantasmes sur les réseaux sociaux, sur des applications de rencontres, et à cet égard, je trouve le film malheureusement un peu lisse, un peu consensuel, parfois même un petit peu conservateur. J'ai l'impression que c'est un petit dico chic des fantasmes et des pratiques auxquelles on donne justement des noms techniques et un petit peu compliqués, comme pour anoblir une matière triviale, alors que moi ce que j'aime justement avec le trivial, c'est quand ça reste trivial. Donc ça m'a fait penser à quelques endroits à des sketchs de films à sketch, et notamment de films à sketch de Woody Allen, comme Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, ou Harry dans tous ses états, sauf que le modèle est irrévérencieux, et là ça manque justement d'irrévérence. La bride est un petit peu trop serrée. Ces six sketchs, eh bien, ils sont construits un petit peu sur le même modèle, donc au bout d'un moment, eh bien, ça patine, on se lasse de la mécanique, et c'est d'autant plus dommage parce que moi j'aime vraiment les films à sketch, et notamment la comédie à sketch, parce que c'est un exercice très technique, c'est un exercice qui demande de la maîtrise, de la précision, voilà, qui file une petite musique, et là ça mange de swing.
Je crois que tu as dit l'essentiel et qu'on ne va pas lui consacrer davantage de temps.
Il y a six sketchs, mais il n'y en a pas un pour sauver l'autre. C'est une compétition auquel sera le plus mauvais. C'est quand même un spectacle assez rare de voir un film qui rate sa cible à ce point-là. Alors les acteurs sont allés toucher leur chèque, j'espère, mais on est triste pour eux. Là. C'est le pauvre Podalides qui se déguise pour pouvoir coucher avec sa femme, l'autre qui tombe amoureux de la sœur de son épouse. En plus, non seulement ça n'est pas drôle, mais il y a un côté gênant. Il y a un des sketchs où Céline Salette est très excitée par les larmes de son mari. Alors évidemment, elle lui coupe des oignons parce qu'elle va lui sauter dessus. Et après, elle lui fait croire qu'elle a un cancer pour le faire pleurer. Et ça, on n'a pas le droit de faire ça. Même dans un film à sketch, c'est tellement bête et vulgaire que c'est interdit. Et j'ai découvert un truc, c'est que les frères Funkinos, je les aime encore moins que les frères Dardenne.
Xavier,
ça va être difficile de leur bandir après ça. C'est vrai qu'habituellement, quand on parle des films à sketch, on dit c'est inégal. Là, au moins, pour une fois, on est sauvé de cet écueil et de cette facilité.
Il y a une tonalité qui est assez juste.
Il y a une tonalité quand même qui est commune aux six films. Ils n'ont aucun intérêt. C'est... Alors, en termes de lumière, je pensais qu'on ne pouvait pas faire plus fade que Passion simple. Ben si, les fantasmes.
Tu ne vas pas comparer les deux.
Pour vous dire quand même que le cul n'inspire pas nos auteurs. Moi, je voudrais me pencher quand même sur le cas, mais beaucoup plus sérieusement, de Denis Podalides. Est-il atteint de schizophrénie? Est-il passé maître dans l'art du grand écart cinématographique? C'est une question, parce qu'on l'a vu cette année à Cannes dans Tromperie, de Desplechin, adapté de Philippe Roth. Et là, on le retrouve en train de jouer le rôle d'un monsieur qui, pour exciter à nouveau sa femme, joue des rôles, dont celui du plombier polonais, bien sûr.
Avec l'accent.
Même Daniel Arby n'a pas osé. Et pourtant, voilà, en Russie, on n'était pas loin.
Quel diplomate russe.
Avec des chutes qu'on téléphone, mais dès les premières minutes. Alors, moi, j'aurais voulu aimer celui avec Céline Salette, parce que je la trouve très, très bien. Mais elle a face à elle un très mauvais comédien, Nicolas Bedos, qui est aussi peu crédible quand il pleure vraiment que quand il pleure pour de faux. Donc là, on a un vrai souci quand même de véracité. Et le souci, c'est que quand on fait un film, alors, c'est un remake, déjà, d'un film australien, qui a eu l'idée de faire un remake de ce truc-là. Je ne sais pas pourquoi. On prend de la drogue, dans ce milieu. Lieu quand même. Et le dernier court-métrage devrait nous titiller un tout petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, et Fouane Kinos regarde ces gens-là, mais ne vont jamais dans la mêlée. Moi, si je fais un film sur les fantasmes, c'est pour essayer de les comprendre, c'est pour essayer de les partager. C'est comme, je suis entièrement d'accord avec Ava, c'est la trivialité. Il faut que ce soit un petit peu sale, il faut que ça grince un peu sous les dents. Et non, là, ils sont tranquillement en train de les regarder comme, effectivement, Karine Viard va être regardée avec son mari Jean-Paul Rouve par plein de millions d'internautes. Et on se dit, ben voilà, il fallait surtout pas créer de distance entre l'objet et le spectateur, ils vous en créent une dont on ne revient absolument jamais. C'est un film. Alors moi, je l'ai vu en salle. Ça fait beaucoup rire. Ouais. C'est très gras. C'est très samedi soir. C'est très hétéro.
C'est grand public.
C'est pas très pour moi, donc.
Pierre.
C'est-à-dire que c'est effrayant de nullité. C'est-à-dire que c'est.
On avait essayé d'être prudent.
Non, mais c'est nullissime. C'est nullissime parce que. Et alors, on se rend compte vraiment que la critique de l'époque était vraiment tellement sévère avec des réalisateurs italiens qui faisaient comme ça des films de sketch comme Dino Risi, comme Ettore Scola, comme Pietro Germi, surtout.
Fou, on va revenir dessus. Mais
un chef-d'œuvre.
Ils avaient le talent et surtout la méchanceté. Parce que, par exemple, il y a un sketch qui pourrait être drôle, c'est celui avec Carole Bouquet et non mais si parce que
sur le papier si
Carole Bouquet et Monica Bellucci, non mais ça devrait être d'une méchanceté, d'une férocité comme Dino Risi. Alors or c'est d'une platitude. Et puis alors les acteurs, parce que Fuenquinos n'ont pas de talent, mais alors au moins dans les films italiens il y avait Vittorio Gassman, il y avait Nino Manfredi. Là c'est atterrant, ils sont tous atterrants, c'est nul.
Courez voir les fantasmes de Stéphane et David Fuenquinos. J'imagine pas de réaction, non ? Non. Sinon, vous auriez peur de réagir sur ce film. Louloute, le troisième film d'Hubert Vielle. Vous savez à qui on doit Artemis, Cœur d'artichaut, avec Laure Calamy. Maintenant, quand il y a un film avec de la campagne, il y a toujours Laure Calamy, vous avez remarqué. Alice Henry, Bruno Clairfond, Éric Cassin, un film 100% normand. Je rappelle que Vielle est originaire de Caen, si vous ne saviez pas, qui commence par une scène de pure mélancolie. Louise, qui est devenue prof dans un collège, c'est Éric Cassin, retrouve son amour de jeunesse et voici que lui apparaissent les images de son passé, celui des années 80. Elle avait 10 ans, elle était louloute, c'est la petite Alice Henry qui la joue, dans la ferme de vaches laitières de ses parents, qui sont joués par Bruno Clairfond et Laure Calamy. Et malgré les dettes, malgré la vie dure, il y avait de l'émerveillement et du rêve dans cette enfance-là. Alors Pierre, je sais que tu détestes la campagne, que tu détestes les animaux de la ferme, que tu n'avais pas aimé la famille Bélier. Qu'est-ce que tu penses de Louloute?
Je suis un peu embêté, c'est-à-dire que...
Pourquoi t'es embêté?
Parce que je trouve qu'il y a... Il y a deux parties dans le film. Il y a donc ce qui se passe au présent et puis donc le flashback. Et je trouve que tout ce qui se passe au flashback, c'est-à-dire une grande partie du film, est vraiment très délicat, très joli et surtout interprété par un comédien que je ne connaissais pas, je dois dire, mais que je trouve absolument formidable.
Clairfond.
Bruno Clairfond, qui est absolument étonnant.
Très juste.
Mais vraiment très juste, naturel. Il porte le film. Les autres sont très bien, mais lui, il le porte vraiment. J'ai un peu plus de problèmes avec le présent, c'est-à-dire lorsque Louloute, devenue adulte, tombe dans les pommes, va chez son copain qu'elle a retrouvé. Là. Je trouve que, moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est vraiment...
J'adore quand tu dis « moi, personnellement ». J'aime toujours beaucoup.
Oui, pardon. Ce que j'aurais aimé, mais je déteste dire ça à un réalisateur, parce que qui suis-je pour conseiller un réalisateur de faire autrement, mais moi j'aurais gardé toute la partie du passé, et puis la conclusion, et j'aurais enlevé tout le présent qui sert à rien.
Xavier?
Je ne crois pas. Moi, j'aime beaucoup le film. Je lui trouve une mélancolie, une tonalité. C'est pas léger, moi, je trouve, cette partie du passé, parce que d'abord, il va lui arriver plein de choses. Et c'est un âge où on a l'impression que personne ne vous aime, que personne ne vous regarde, et que Louloute voudrait happer le regard de ses parents, et elle sent qu'il, pour multiples raisons, qu'elle n'arrive pas à le saisir, elle multiplie les efforts, elle monte un petit déjeuner à un moment, et c'est une scène qui va se répéter. Et je trouve que les allers-retours entre le passé et le présent, qu'Hubert Vielle définit d'ailleurs en disant, on ne sait pas si c'est le présent qui est inventé depuis le passé, ou le passé qui est revu depuis le présent. Et donc, je trouve ce trouble assez intéressant, nous raconte...
Et puis il y a quand même l'histoire de cette agriculture saisie par le capitalisme.
Non, mais il y a le réalisme social, il y a plein de choses, il y a l'onirisme, il arrive à combiner tout cela dans un même mouvement. La dernière réplique nous renseigne quand même beaucoup sur le film, que faut-il lâcher de cet enfant pour pouvoir commencer enfin à vivre. Et puis, dernière chose, on entend Agathe et les Regrets, mon groupe préféré dans les années 80. Et oui, tout le monde s'amuse, tout le monde est très très gay, voilà. Tu sortais pas à cette époque, mais moi j'ai adoré Agathe, voilà.
Ava?
Moi, je rejoins l'amour de Xavier pour ce film. Je trouve que c'est un film très joli qui aborde des thèmes effectivement pas évidents, hein, la dépression, la détresse des éleveurs, les terres de l'enfance. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce voyage.
La Normandie, s'il vous plaît.
Voilà, la Normandie, évidemment.
Le Pays d'Auge.
J'ai beaucoup aimé le voyage dans le temps, le voyage entre... Non, c'est pas le Pays d'Auge.
Non.
Oh, ça va, c'est des marécages et de l'herbe. Hein.
Non, mais c'est ce voyage
avec
entre...
Des vaches.
entre les différentes dimensions est très bien géré, entre le rêve et la réalité. Et j'aime beaucoup, moi, le fait que l'héroïne perde le contrôle, justement, de cette réalité, qu'elle s'évanouisse, qu'elle s'endorme et qu'elle se rejoue dans ses rêves, en fait, le film de son enfance. Je trouve que c'est une belle idée, en fait, de nous faire découvrir un personnage adulte à travers les rêveries d'une enfant et de l'enfant qu'elle a été. Ça, c'est une vraie belle idée. Et il est teinté de nostalgie, le film. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour lui.
Éric.
Très bon petit film, mais ça fait partie de ses qualités. Là. Il y a une prof rousse qui a un faux air de Laetitia Doche, mais qui, heureusement pour elle, ne tombe pas. J'ai cru que c'était elle au départ. Et qui, heureusement pour elle, ne tombe pas.
Et t'as vu le danseur russe, peut-être, au fond de l'étable.
Il n'y en a pas. Et ce flashback presque permanent dans les années 80, il y a une nostalgie, une odeur de tout ce qui se passait à ce moment-là. Et elle a le regard qui est toujours décalé des enfants de 10 ans sur leurs parents, sur ce qui les entoure. Et là, en plus, comme c'est à la campagne, tous ces gens, après la BAC Nord, là, c'est la PAC, la politique agricole commune, qui est en train de les tuer. Et non, le film est très, très joli, très réussi, modeste et à hauteur de ses ambitions. Et il faut vraiment aller le voir parce qu'il y a quand même tout un côté Pascal Thomas, sinon Piala. Oui. Louloute, mais avec le charme qu'ils n'ont pas toujours.
Et qui s'ajoute c'est presque une tendance du cinéma, hein, en tout cas français, ouais, c'est-à-dire sur le monde agricole, sur la...
Il y aura bientôt la Terre des Hommes.
Tant mieux, on a tellement déserté que...
Oui, mais c'est ce que je dis, c'est
tout à fait
c'est,
normal.
Ouais. Ça s'inscrit un peu dans cette tradition. Louloute d'Uberviel. Et on termine avec Free Guy de Sean Levy, l'un des rares blockbuster américain n'ayant pas été déprogrammé cet été. J'avais inscrit au début, on peut tout le dire, hein, Snake Eyes, qui était reporté sine die, et de plus en plus de grosses machines américaines ont été reportées, jugeant que l'état des salles, en tout cas en France, n'était pas assez, ne justifiait pas que ces films... donc ça sera normalement à l'automne. Bref, si j'ai bien compris, car je confesse, mes enfants, ne pas l'avoir vu. Guy, c'est Ryan Reynolds, est caissier dans une banque et il découvre un jour qu'il est un personnage d'arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne. C'est bien ça, il décide alors de devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire selon le modèle que le monde est un grand jeu vidéo. Donc la question, si j'ai mal résumé, tu peux mieux résumer, Xavier, est-ce que je dois aller voir Free Guy ?
Il manque juste un petit rouage dans le résumé qui était très juste, qui était très précis. C'est-à-dire qu'il prend conscience, mais c'est...
Bon, je vais arrêter d'aller voir les films, en fait.
Influencé par une jeune femme qui essaye de franchir les limites secrètes du jeu vidéo parce qu'elle recherche un secret qui va pouvoir peut-être lui permettre de vivre enfin de ce jeu vidéo qu'on lui a volé.
Ah, ça y est, j'ai rien compris.
Ah non, mais c'est... Et qui est joué par la géniale Jellie Corner. Alors les gens qui regardent un peu les séries télé la connaissent parce que c'est Killing Eve, évidemment, et qu'on adore. Donc c'est l'histoire d'un hit, comme diraient les Américains, qui prend conscience qu'il n'est rien, mais qui, influencé par cette jeune femme, va découvrir qu'il peut être effectivement le mentor de tous ces hits, de tous ces anonymes qui se font assassiner dans les jeux vidéo à longueur de temps et qui fomentent la violence comme ça, spontanée, des joueurs. Et ça aurait pu être extrêmement malin.
Tu réponds pas à la question, est-ce que je dois aller le voir,
hein? Bah, non, parce que malheureusement, le film est raté. Mais il aurait pu être extrêmement réussi, oui, et ça. Il n'est pas loin de l'être. On pourrait penser à Andrew Niccol, le Truman Show, par exemple. Ouais. Le problème, c'est qu'il cède aux sirènes du blockbuster, au sens vraiment premier degré du terme. C'est-à-dire que les immeubles passent leur temps à s'écrouler, bon, une fois, deux fois,
comme
trois fois.
Comme dans les jeux vidéo.
Ça va. Oui, voilà. Mais sauf qu'à l'intérieur de ça, de ce méta-jeu vidéo, dans un méta-film, il y a un acteur, Ryan Reynolds, que j'aime énormément, qui a l'air de rien, qui a l'air d'être l'incarnation du mari de Barbie, Ken, comme ça, fade, insipide, et qui, grâce à cela, parce qu'il en a tout à fait conscience dans la vraie vie, est capable de sortir les pires insanités. Il boit une gorgée de café chaud au début du film, et fait « Oh, j'ai l'impression qu'on m'a dégusté de la gorge !» Et il le fait avec, mais sans appuyer, sans rien.
Tu le fais très bien aussi.
Je
le fais
très bien, parce que j'aime beaucoup
Ryan Reynolds.
Et il joue dans Deadpool, dans Hitman and Bodyguard, il joue là-dessus, et c'est vraiment un acteur intéressant, parce qu'il n'est rien, déjà, quelque part. Il n'a pas beaucoup d'incarnation, et que grâce à ça, il peut tout jouer. Et on retrouve d'ailleurs, trois quarts d'heure plus tard, Channing Tatum, qui est un comédien exactement de cette même trempe, qui a accepté de jouer avec son image, et qui l'a d'ailleurs un peu détruite en termes vraiment bankable hollywoodien, qui joue l'avatar hyper musclé d'un pré-ado pris à pic qui se touche avec une chaussette.
J'ai pas dû le film, si j'ose dire, de la chaussette.
Non mais voilà, si le film était resté là-dessus, ça aurait été formidable. Il est un blockbuster, malheureusement, un peu casse-gueule.
Éric.
Ça permet de vérifier qu'il y a encore plus crétin que les films inspirés de bandes dessinées, ce sont les films tirés de jeux vidéo. C'est complètement con. C'est un film débile. Le héros a une belle tête d'abruti à la Fred McMurray. L'héroïne a le nez refait. Il parle à son poisson rouge tous les matins. C'est un peu un jour sans fin, mais sans le talent, sans rien du tout. Il ne se passe rien. Le seul moment où il arrive un petit truc, c'est que le gars, il s'habille tous les jours en chemise bleu ciel. Et un matin, il enfile un polo à manches longues de la même couleur. Alors ça, c'est le drame absolu. C'est la seule chose intéressante. S'il y a un détail, c'est que...
Parce que ça, ce que tu viens de raconter, c'est intéressant.
Ah bah, par rapport au reste, oui.
Ah bah, ça,
il y a
pas,
un
alors.
Détail qui est
tu
marrant
pas
aussi.
Vu, je te rappelle, tu es censé être neutre.
C'est... Dans ce film, tous les gens qui portent des lunettes ne parlent pas aux autres. Et si de temps en temps, Xavier pouvait en prendre de la graine...
Gratuit. C'était complètement gratuit.
Pierre, oui, comme une érochée, mais bon, c'est une
je suis plutôt de l'avis de Xavier, je trouve ça.
C'est ah bon?
Oui, oui, non, mais attends, moi, j'y connais rien en jeux vidéo, je suis nul, mais nul.
Enfin, moi non plus, on fait un Pac-Man,
non, non, mais,
j'ai jamais gagné
de Pac-Man. Non, mais rien, je suis nul. Et j'ai trouvé ça, mais plutôt original, parce que c'est Spartacus. C'est une sorte de Spartacus.
Spartacus,
c'est une... Oui, ben oui,
c'est la revanche des
anonymes. Ben oui, c'est un anonyme qui sème la révolte de personnages fictifs pour acquérir l'indépendance. C'est Spartacus. Et donc, je trouve ça...
Et la pacification des jeux vidéo.
Oui,
absolument.
Et oui,
et la pacification, non, non. Mais il y a... Donc, c'est un scénario que je trouve absolument formidable. Mais vraiment formidable. Inventif. Enfin, le problème, c'est que c'était en effet une histoire de blockbuster... chiant parce que ça dure 2 heures, que c'est épouvantable, mais il y a plein d'humour parce que en effet il y a beaucoup d'humour.
C'est-à-dire
il y a Channing Tatum, mais il y a aussi
qu'est-ce qu'il y a drôle.
Non mais ah ben c'est constamment
c'est
drôle.
C'est fait, second degré,
c'est fait sur l'humour décapant et ça. Ryan Reynolds, moi j'ai pas du tout l'indulgence que t'as pour Ryan Reynolds, mais il
j'ai
est
pas parlé d'indulgence.
Ouais, mais enfin il est non mais il a fait venir tous ses potes, c'est un film de copains et il s'amuse. Et moi, je voudrais bien m'amuser un tout petit peu plus si c'était un peu mieux fait que ça. Mais le scénario est passionnant, oui.
Donc, vous êtes plus convaincant qu'Éric. Alors, Ava Cahen, que pense-t-elle de Free Guy ?
Eh ben, moi, je me suis beaucoup amusée, alors que vraiment, j'y allais avec zéro motivation. Je m'attendais à voir le navet débile de l'été.
Tu es très jeu vidéo ou pas ?
Mais pas du tout jeu vidéo. Alors, c'est vrai que c'est plus drôle si on a les références, voilà, à la culture geek et à la culture pop, effectivement. Mais ça reste très divertissant. Il y a plein de cascades, c'est très fun, il y a de l'action, il y a des punchlines bien senties, il y a des morceaux de chanteuse pop à 5 octaves, comme ils disent dans le film, avec du Mariah Carey et du Miley Cyrus. Et moi, j'ai beaucoup aimé, effectivement, le personnage de Ryan Reynolds. Toi, tu dis Ken, Xavier, moi, j'aurais dit un Yes Man sous Prozac. C'est un petit peu l'effet qu'il m'a fait. Il est très attachant, ce personnage.
On est en train de la perdre,
hein, là. Mais... Non, mais sous ses airs un peu neuneux, comme ça, de film.
C'est,
oui,
c'est la vraie,
mais c'est, mais oui, tout à fait, c'est neuneux. Mais il y a une réflexion assez salvatrice, finalement, sur la violence, à la fois dans la société, dans les jeux vidéo, au cinéma. Et puis il y a une critique qu'on pourrait voir aussi un petit peu d'Hollywood, une critique assez féroce, mais oui, parce que ça raconte quand même comment deux jeunes gens se retrouvent dépossédés de leurs œuvres, que des financiers et que des studios vont complètement dénaturer. Donc voilà, il y a quelque chose de pas si débile que ça. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne surprise.
C'est Bac Nord à Hollywood, quoi,
voilà.
Si je comprends bien.
Mais laissez-moi à Hollywood.
Bon, bah, peut-être que je vais quand même me laisser tenter pour Free Guy. De
menteur.
Oui.
On n'y croit pas du tout.
De Sean Levy, qui est sorti, je crois, cette semaine ou la semaine dernière. Eh bien, on a le temps, même tout à fait le temps, de donner des conseils, parce qu'il y a d'autres films qui sont sortis. Et je le dis, je le rappelle, il faut aller en salle, il faut aller voir des films sur grand écran. Parfois, il y en a qui hésitent. Eh bien, il faut y aller. Voilà. Avec son pass sanitaire, on entre. Donc, donnez-moi des propositions, de conseils pour nos auditeurs. On commence avec Ava Cahen, dont je rappelle, je l'avais dit au mois de 10 juillet, qu'elle a été nommée pour l'année prochaine patronne de la semaine de la critique au Festival de Cannes.
Oh là là, la pression juste
avant.
Maintenant,
tout ce que tu dis va être à l'aune de cette nomination.
Je voulais recommander un premier film qui va sortir en salle le 25 août. C'est le premier long-métrage de Emma Benestan avec Yacine Aouicha, Oulaya Amamra et Tiphaine Davio. C'est un film qui s'appelle Fragile. C'est plein de charme et plein de soleil. L'action se déroule à Sète. Alors, ses plages, son port, ça donne tout de suite envie de retourner en vacances. Et ce qui m'a plu dans le film, c'est que la réalisatrice arrive de manière plutôt habile à détourner les codes de la comédie romantique. Elle inverse les rôles en réalité. Donc, par exemple, c'est le garçon qui s'empiffre de glace après un chagrin d'amour. Et elle le fait avec beaucoup d'humour et avec beaucoup de talent. Elle casse les clichés, notamment les clichés sur la virilité, sur la masculinité. C'est très bien joué. L'énergie du film est communicative. Ça danse aussi et ça donne envie de danser. Donc c'est en salle le 25 août et ça s'appelle Fragile.
Et d'aller à Sète. Le conseil d'Éric.
Tous les bons films en ce moment durent 3 heures. Et c'est le cas de Berlin Alexanderplatz, de Buran Kurbani, qui adapte le fameux roman de Dublin après la série de Fassbinder, et j'ai trouvé que le film était totalement vénéneux avec ce migrant de Guinée-Bissau qui échappe à la noyade et qui se retrouve dans un Berlin complète en pleine dérédiction sous la coupe d'une des plus belles ordures que le cinéma nous ait donné depuis des années. Une espèce de macro dealer qui est pervers, tordu, manipulateur, et c'est comment ce type-là, l'Africain, veut rester à peu près pur au milieu de toute cette déchéance, cette pourriture. Et le film est très très beau, un peu emphatique par moment, mais c'est quelque chose qui est un vrai choc de cinéma.
Qui est sorti cette semaine ?
Sorti la semaine dernière.
Le conseil de Xavier.
Alors moi, c'est un film totalement inédit de 1976. On ne l'a jamais vu, on l'avait perdu, on le croyait perdu. Il avait eu droit à une distribution en Iran, pays de son origine, dans un festival lorsqu'il est sorti. Le film avait déjà déplu au chat qui avait pratiquement demandé à ce que la projection soit mutilée. Donc on avait projeté le film sous-éclairé en mélangeant les bobines. Enfin, c'est un film maudit depuis sa création. Ça s'appelle « J'y arrive, l'échiquier du vent » et c'est signé Mohamed Reza Asiani. On a enfin retrouvé le film, c'est sa fille d'ailleurs qui l'a retrouvé dans une brocante, qui a reconstitué le film, qui l'a restauré, enfin il y a des cinémathèques qui l'ont fait, ça sort grâce à Carlotta en France, et c'est sur grand écran, donc l'alliance, alors on peut penser à plein de gens, moi pour simplifier les choses, je dirais c'est la rencontre entre Satyajit Ray, les joueurs d'échecs, et Buñuel, la perversité, c'est un huis clos dans une famille. La marâtre vient de mourir, il y a un peu de Carlos Saura aussi de l'époque d'ailleurs, 76. La marâtre vient de mourir et elle laisse une fille handicapée sur un fauteuil roulant et un beau-père, donc un dernier amant, qui vont se disputer, mais se disputer férocement jusqu'à la mort quand même, le butin qu'a laissé la mère. C'est en termes de mise en scène stupéfiant et c'est à découvrir d'urgence.
Alors, je voudrais, puisque tu parles d'Iran, dire que nous avons très, très ardemment conseillé cet été au masque la loi de Téhéran et que je suis bombardé de messages de gratitude, de remerciements.
Oui, c'est magnifique.
C'est un très grand film. Oui. Et donc, voilà, les auditeurs y sont allés et ils sont fous de ce...
Entrées ont doublé le lendemain de la diffusion
du
de
masque. Oui, tant mieux. Pierrot.
Alors, le 25 aussi, en salle, un film qui s'appelle Les sorcières d'Akelar. C'est pas un remake, mais une variation autour des sorcières de Salem. C'est pas inspiré des sorcières de Salem, mais c'est beaucoup mieux que les sorcières de Salem, version française et version américaine. C'est signé d'un jeune cinéaste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pablo Aguero, et qui avait fait jusqu'à présent surtout un film sur Eva Perón totalement formidable, qui s'appelait Eva ne dort pas.
Absolument.
Voilà, qui était vraiment très, très, très passionnant. Et donc, il vient de faire Les sorcières d'Akelar, qui sort donc le 25. Donc ça, c'est vraiment à voir. C'est vraiment un film féministe absolument réussi, vraiment très, très étonnant. Et alors, très rapidement, puisqu'on parlait de films à sketch, quel est le film français qui réunit Chabrol, Jacques Demy, Philippe de Broca, Jean-Luc Godard, Roger Vadim.
Les sept péchés capitaux.
Les sept péchés capitaux.
Il n'y a pas les frères Fuenkino dedans.
Non, heureusement. Et alors voilà.
Je
conseille les sept péchés capitaux. C'est chez Gaumont Découverte. Il y a le sketch de Godard qui est magnifique avec Eddie Constantine. C'est sur la paresse où Eddie Constantine ne veut pas coucher avec une starlette parce qu'il faut se rhabiller après. C'est trop difficile.
Et se déshabiller avant.
Et puis, et aux surprises, il y a un bon sketch de Vadim qui s'appelle L'orgueil avec Marina Vladi et Samy Frey, qui est presque du Buñuel. Vadim Buñuel, vous rendez compte ?
Tous ces conseils très variés, vous les retrouvez évidemment sur le site du Masque à la Plume. Franceinter.fr, merci beaucoup à Vakaen, Eric Neuf, Pierre Murat, Xavier Le Herpeur. Pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Selam,
Et ce soir à la technique au théâtre de l'Alliance française, il y avait, et je les remercie, Bruno Mourlan, Philippe Thibault, Antoine Espel. La réalisation était signée Xavier Pistuggia. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque aura lieu le jeudi 2 septembre à partir de 19h au théâtre de l'Alliance française, 101 boulevard Raspail dans le 6e à Paris, pour une seule émission consacrée au cinéma. Dans une semaine, on parlera de la rentrée littéraire. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.